Et nous sommes le 23 mars, tout de suite les titres de votre journal présenté par Charlotte Folana. Charlotte, bonjour.
À la une ce mercredi, on reviendra sur l'intervention de Gaston Flosse après l'implosion du groupe Tawera. On fera un tour du côté du Rassemblement National avec Éric Minardi qui se dit optimiste pour les élections présidentielles. Et puis on partira aussi dans les airs avec Tahiti Air Charter qui se voit refuser ses autorisations de vol aux Marquises.
Et on commence avec Gaston Flosse qui s'est exprimé ce matin.
Oui, une prise de parole attendue quelques jours après l'implosion du groupe Tawera à l'Assemblée. Caroline Perdri, vous étiez au siège du parti Orange ce matin, rue Cardella.
Oui, Charlotte, bonjour. Le divorce semble bel et bien consommé entre Gaston Flosse et Théoura Eriti. Tout est de la faute de Théoura Eriti, a expliqué en substance le président du Hamouï Tahira ce matin en conférence de presse. La présidente de l'ex-groupe Orange à l'Assemblée n'a jamais, dit-il, respecté les instances du parti et ses procédures internes. Il l'accuse de vouloir tout diriger seul, mais de ne pas faire le travail de fond, comme l'organisation des sections et des fédérations à Harué ou comme les rapports moraux et financiers du groupe à l'APF qu'elle n'a jamais rendu. Il aimerait savoir, dit-il, où vont les 3 millions par mois dont elle dispose en tant que présidente du groupe. Pour Gaston Flosse, Théoura Eriti est une traître, probablement téléguidée par Edouard Fritsch. Il voit dans la nomination du ministre de la Jeunesse, Naéa Bennett, fils de Yolande Bennett, désormais inéligible, un renvoi d'ascenseur du gouvernement et il accuse la maire de Harué d'avoir précipité la fin du groupe à l'Assemblée en faisant affaire à James O et Vayata Friedman, le sale boulot, c'est-à-dire en les faisant démissionner. La suite, Gaston Flosse parle d'action en justice, mais il n'évoque pas pour l'instant l'exclusion du parti des représentants récalcitrants.
Merci Caroline Perdri, vous étiez au siège du parti Orange ce matin, regardez-la.
Et Ténati veut une indépendance économique.
Et oui, les représentants de Marine Le Pen en Polynésie déplorent la coupure dans la campagne présidentielle causée par la guerre en Ukraine. Éric Minardi estime que le RN pourrait être face à Emmanuel Macron au deuxième tour, mais avec une grande part d'abstention. Cette année, il met en avant le programme en 12 points de Marine Le Pen, avec des éléments similaires aux élections de 2017. Mais pas seulement, écoutez-le.
Le fait d'avoir dans les aides ou tout ce qui touche au nucléaire, nous avons décomposé en 5 points avec le remboursement. Donc des frais engagés par la CPS, avec l'accompagnement des malades des maladies radio-induites, le fait de dire aussi que 1% du chiffre d'affaires d'EDF nous apporterait énormément d'autonomie est une bonne chose. Sur la défiscalisation, nous avons aussi évolué dans le sens que nous voulons que les projets de défiscalisation locale, qui soient industriels ou qui soient pour les logements sociaux ou intermédiaires, soient traités localement par la DICP ou par le Haut Commissariat.
Et on le rappelle, la candidate était arrivée en tête au premier tour dans les Outre-mer en 2017. À savoir que Ténati, qui représente donc le Rassemblement National en Polynésie, a obtenu une dizaine de parrainages en Polynésie.
Et direction maintenant vers les Marquises.
Et oui, on s'envole aux Marquises, mais mauvaise nouvelle pour Wapu et Wauka, l'avion de Tahiti Air Charter ne pourra pas décoller aux Marquises, un projet initialement prévu depuis juillet 2021. Malgré des mois d'échange et 35 versions du dossier, le manuel d'exploitation de Tahiti Air Charter sur la desserte de la Terre des Hommes n'a jamais été validé par les services de l'État. Même si elle l'assure, l'aviation civile a longtemps travaillé avec TAC à l'amélioration du dossier de la compagnie, comme nous l'explique justement Lucette Lasserre, la directrice du service d'État de l'avion civil.
On a travaillé beaucoup avec ce dossier puisque au regard de la note d'expertise qu'on avait, on avait un certain nombre de points qui normalement devaient être présents dans un dossier pour l'exploitation des Marquises. Alors, on a accompagné TAC de la version 0 jusqu'à la version 35 pour avoir le maximum de points qui répondent à la note technique. Donc, soit par des mesures qui soient exactement celles qui étaient préconisées, soit avec des mesures qui permettaient d'avoir des équivalents de sécurité.
Si TAC n'obtiendra jamais le sésame, c'est en partie à cause du type d'appareil choisi par la compagnie, un Cessna motomoteur qui effectue sans problème des vols commerciaux au Raromatai, mais il ne serait pas adapté pour les Marquises. En tout cas, Lucette Lasserre, directrice du service d'État de l'aviation, pointe plusieurs points bloquants.
Le premier point, c'est sans doute que lorsqu'on est en monomoteur, on a besoin d'avoir des zones de recueil où, en cas de panne moteur, on puisse se poser. La difficulté des Marquises, notamment Wapu et Wauka, c'est qu'il n'y a pas de terrain qui puisse permettre de se poser sur terre. Et la seule possibilité que la compagnie a présentée, c'était de se poser sur la mer, ce qui n'est pas une zone de recueil. Le fait d'être monopilote faisait quand même courir un grand danger sur la partie risque-fatigue du pilote. Le vol en VFR ne permet pas les mêmes souplesses que quand on est en IFR.
À l'Assemblée, justement, hier, Jean-Christophe Bouisson a réagi. Il a confié la désillusion du pays sur ce dossier et expliqué qu'un nouvel opérateur serait recherché dans les 3 mois. Une décision devrait être prise dès ce vendredi lors d'une réunion de la commission de délégation de services publics. En attendant, les Marquisiens sont toujours sans avion et ne peuvent se déplacer que grâce aux hélicoptères de Taïtinou Hélicoptères qui devraient poursuivre leur desserte de Wapou et Wauka au moins jusqu'à la fin du mois de juin.
Et une opération portes ouvertes à Etimaono.
Le golf international est bien décidé à se remettre sur le devant de la scène après 2 ans de Covid qui ont limité sa fréquentation. La réfection du club house s'est lancée, la campagne pour attirer davantage de touristes aussi. Mais c'est avant tout aux Polynésiens que l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva, qui gère le site, veut s'adresser. Du 29 mars au 9 avril, il organise des journées d'initiation gratuites et ouvertes à tous. Au programme, découverte des parcours, du matériel, du practice et bien sûr essais de putt et de swing sur les greens et fairway de Papala, le tout encadré par des professeurs et professionnels comme Waka Kalifatai.
On commencerait par des ateliers, des petits ateliers pour faire entrer la balle dans le trou, aller faire un tour sur le practice pour taper un peu plus loin la balle, leur montrer un peu le matériel aussi. Et suite à ça, on fait un petit tour sur le parcours pour essayer de leur mettre et voir ce que c'est que le golf. L'idée, voilà, c'est de découvrir toute la structure du golf, ce qui est physique au golf. Il faut quand même montrer qu'il y a un côté sportif aussi au golf. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, ils ont aussi la chance de pouvoir découvrir quelque chose qui semble facile mais qui ne l'est pas du tout.
Ces journées sont aussi l'occasion de montrer le vrai visage du golf, car pour Waka, cette activité à la fois sportive et familiale souffre de trop nombreux clichés. C'est un sport accessible à tous, assure le professionnel. Ça permet d'être ensemble dans des grands espaces, se dépenser en faisant quelque chose d'insolite.
Je sais qu'il y a des familles qui veulent passer du temps ensemble, tout convivial aussi. Hein. Donc ça peut être l'occasion pour eux de profiter, de peut-être découvrir une activité en commun, quand les enfants et les parents ensemble. Souvent les enfants ils partent à part, sur du surf et tout ça, et les parents ils sont sur un autre sport. Là ça peut être l'idée pour eux, c'est de les rassembler en même temps. C'est le même physique pour tout le monde. Ça profite pas d'être jeune ou vieux, c'est pareil.
Pour réserver vos séances d'initiation, direction la page Facebook du Golf de Tahiti.
Et puis une marche pour le climat ce samedi.
Et oui, c'est un appel international qui est relayé par un petit collectif avec en chef de file Jason Mann, militant connu pour ses actions environnementales. Il était l'invité d'ailleurs de Radio 1 ce matin et il a rappelé à quel point la crise climatique était un sujet urgent.
C'est une crise qui met en péril. Le dernier rapport du GIEC d'il y a quelques semaines disait au moins la moitié de la population va être impactée de façon significative, c'est-à-dire des gens qui vont perdre leur logement par la montée des eaux, des zones qui vont devenir désertiques, des zones où ce sera plus fertile, enfin, en tout cas plus assez pour nourrir les personnes. En tout cas, ça représente un danger pour l'espèce humaine. Donc on parle d'un gros sujet qui devrait en tout cas prendre beaucoup plus de place dans les médias.
Des affiches dans la rue, une omniprésence dans les médias et les discours politiques. Le militant aimerait voir les mêmes moyens de prévention de la crise Covid mis au service de la crise climatique. Reste une question, est-ce que ce genre de marche peut changer quelque chose?
Ça m'arrive aussi de me dire à quoi ça sert de faire des marches parce qu'on en a déjà fait 2. Et en même temps, même si ça n'a pas l'efficacité qu'on veut, on peut pas nier que ça sert à quelque chose. Ça sert à nous rassembler, ça sert à nous sentir moins seuls. Et au niveau politique, moi en tout cas j'ai gagné en puissance politique on va dire aujourd'hui dans le sens où j'ai un peu plus influence qu'avant. Donc là, il va falloir me faire confiance, c'est-à-dire que j'ai besoin de belles images pour dire que la population était là, qu'on était énormément, qu'on est très inquiet. Bon, ensuite, ça me sert d'argumentaire, moi et des personnes avec qui je travaille là-dessus, pour faire changer les choses.
Voilà, plus de poids pour pousser les élus à mettre en place des mesures d'atténuation, des changements climatiques et surtout d'adaptation à ces effets. Le rendez-vous pour cette marche internationale pour le climat, c'est à Taraoï ce samedi dès 14h.
Et puis le Big Band du Conservatoire artistique de la Polynésie française revient sur scène.
Et oui, vendredi et samedi au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, le Big Band est de retour avec de nouveaux interprètes pour fêter le jazz. Au programme, vous retrouverez le crooner canadien Jean Croteau et Bruno Demougeot. Il y aura aussi de la nouveauté puisque 18 morceaux seront interprétés par de jeunes voix féminines. On pourra ainsi entendre Raoumata, l'artiste féminine de l'année au Tiare Music Award, pour qui ce sera d'ailleurs le premier concert de jazz. On aura aussi la jeune Lilia qui a récemment participé au concours des voix des Outre-mer à l'Opéra de Paris et également Rava Ere, la rockeuse. Elles vont se protéger à de grands standards du jazz, Flying to the Moon, Landfall in Love. Voilà, et une autre personnalité aussi fera ses débuts sur scène, le bijoutier Frédéric Missir. Les nuits du jazz, c'est vendredi et samedi, notez bien dès 19h. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site radio1.pf. C'est la fin de notre édition. Très belle journée sur Radio 1. Je vous dis à très vite et le prochain flash, ce sera à 16h avec Caroline Perdry.
Merci beaucoup, Charlotte. À demain.